l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Aujourd'hui, un voyage, encore un voyage entre la littérature et les sciences, avec un écrivain voyageur s'il en est, un précurseur aussi de la science-fiction, un breton de surcroît, vous aurez reconnu peut-être Jules Verne. Et c'est le capitaine Nemo que nous recevons aujourd'hui, enfin presque. Je suis certaine qu'il ne renie pas la comparaison, il est comme le capitaine Nemo, scientifique, explorateur, amoureux de l'océan au point d'en faire son métier, puisqu'il est océanographe, amoureux des belles lettres, au point d'écrire des contes polaires que vous pouvez réécouter sur le site internet de la radio. Ou bien est-il plutôt Cyrus Smith, un autre héros de Jules Verne, Cyrus Smith, l'homme de science rationnel, un point de référence, le père de sa communauté. En fait, il est Paul Tréguer, qui tient un blog, Repère Évolution du Monde, où il se fait philosophe et photographe, et il vient de publier chez l'Harmattan dans la collection Espace littéraire, Jules Verne, planète océan, océan au singulier. Et comme le 28 septembre, c'est la journée mondiale de la mer, on prend un peu d'avance. Bonjour Paul Tréguer.
Bonjour, bonjour.
Alors en quoi est-ce que c'est toujours intéressant de mélanger les arts et les sciences, enfin, en l'occurrence la littérature et les sciences?
Alors la littérature, c'est l'art de raconter des histoires, on appelle ça du storytelling.
Et en bon français.
De faire appel à l'imaginaire des lecteurs. Alors ceci permet, je pense, de captiver leur attention, y compris pour des questions qui sont parfois difficiles, comme les questions de science. Alors à cet égard, on peut dire que Jules Verne est un exemple, une référence, non seulement au niveau français, mais bien au-delà, au niveau mondial. Et mon ambition ici, en écrivant Jules Verne, Planète Océan, était plus modeste. Dans le cadre de ce livre, enfin d'abord, eh bien, je revisite bien sûr les ouvrages de la trilogie marine de Jules Verne, c'est-à-dire « Les enfants du capitaine Hurant »,« 20 lieues sous les mers » et « L'île mystérieuse ». Je les revisite, bien sûr, avec un œil critique d'océanographe moderne et aussi pour souligner combien Jules Verne aimait la mer.
Oui,
un amoureux de la mer.
C'est vrai, on y pense pour le tour du monde en 80 jours, on y pense pour les ballons, on y pense pour le centre de la Terre. Et bon, si, il y a quand même le capitaine Nemo, il est très populaire.
Voilà, et 20 milieux sous les mers a été écrit à bord d'un de ses navires. Il en a eu trois, qui s'appelaient tous les Saint-Michel. C'était le nom de son fils, en fait. Quoi. Et aussi, donc, je me suis permis d'emprunter le style de Jules Verne pour créer une enfance et une adolescence à l'un de mes héros favoris, Cyrus Smith, que vous venez de citer, l'ingénieur qui conduit la communauté des naufragés de l'île mystérieuse. Et d'imaginer ce qu'écrirait Jules Verne maintenant, au XXIe siècle. J'imagine qu'il serait à la recherche d'autres océans, sur d'autres planètes, et pourquoi pas à des formes de vie basées sur d'autres éléments que le carbone. Est-ce qu'il les trouve? Écoutez, je vous laisse l'ouvrage. Je vous donne pas la fin.
Oui, on en avait un petit peu parlé dans une précédente émission. Je crois qu'il était question de silicium, notamment. Allez. Et Jules Verne, pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Est-ce que c'est l'inspirateur de votre carrière, vraiment, ou pas?
Ah, c'est beaucoup de choses. D'abord, il a enchanté mon enfance et mon adolescence. Et pour moi, Jules Verne, c'était les aventures extraordinaires, au sens propre du terme. Les sciences en action au bénéfice du progrès humain, pour l'humanité. C'est aussi la découverte des merveilles de l'océan. Et puis, la lecture de l'île mystérieuse, il faut le dire, je l'avoue, a déclenché ma vocation de chimiste.
Ah oui.
Et c'est ce que je raconte dans Jules Verne, Planète Océan. Alors, j'ai bénéficié d'une préface de l'amiral Coldevy, qui est ancien président de l'Académie de Marine. Et voici ce qu'il écrit. Le choix des trois récits est en fait le choix de trois personnages emblématiques, sans nul doute proche de Jules Verne, mais peut-être encore plus proche de l'auteur lui-même. Effectivement, le prince Drakkar, alias Capitaine Nemo, est l'homme révolté, devenu au soir de sa vie un sage, un bienfaiteur de l'humanité. Édouard Glenarvan, un Écossais, dans Les enfants du Capitaine Grant, c'est le marin déterminé qui surmonte toujours l'adversité. Et enfin, Cyrus Smith, dans l'île mystérieuse et le scientifique rationnel, et le point de référence de sa communauté, incontestablement il y a un peu de tout cela en moi, dans mon histoire, dans mon évolution personnelle.
Et Cyrus Smith, il est scientifique. C'est quoi sa spécialité ?
Alors, il est ingénieur, physicien et chimiste.
Mm-hmm. Et ça, c'est parfaitement. Et c'était des. Finalement, on va s'en rendre compte, mais c'était des domaines de sciences. Bon, il s'intéresse. Jules Verne s'intéressait à tous les domaines scientifiques, mais c'était peut-être les domaines qui maîtrisaient le mieux, en fait, finalement, ces domaines-là.
Alors, il est intéressant de savoir que Jules Verne a eu énormément de liens avec la famille Arago, dont un grand scientifique qui a en particulier créé les comptes rendus de l'Académie des sciences. On devine que c'était une mine incomparable pour Jules Verne pour piocher un peu dans tous les domaines.
En effet.
Je dois dire que, bon, devenu adulte, l'enfance étant passée en principe, mais je suis sans doute resté un petit peu jeune en esprit en tout cas, et j'ai gardé la capacité de m'enthousiasmer pour les grandes aventures du XXe et du XXIe siècle, qu'il s'agisse des courses de voile autour du monde, de l'exploration sous-marine, des découvertes de l'océan profond, des challenges de l'humanité confrontée au changement climatique, et plus généralement des aventures, des grandes aventures de la science moderne, en particulier en milieu polaire.
Oui.
Je suis impliqué dans Polarpod avec Jean-Louis Etienne.
Bien sûr.
Ou de l'exploration de l'univers à l'aide de sondes interplanétaires, ça c'est mon imagination.
Ah oui, ça c'est oui. Parce que c'est vrai que la science, on l'oublie parfois, mais c'est aussi de l'aventure. Enfin, pas toujours, hein. On est dans son labo parfois, mais parfois on est sur le terrain.
C'est un peu un aventurier.
Oui, c'est ça, les océanographes ont cette chance-là. Alors le livre La planète océan est construit autour de donc, cette trilogie Les enfants du capitaine Grant, 20 milieux sous les mers et l'île mystérieuse. Mais vous avez commencé par le dernier, par l'île mystérieuse, alors pourquoi ?
Effectivement, c'est un peu un paradoxe de commencer par la fin, mais en fait, il faut réaliser que ce que Jules Verne nous donne dans ses trois livres, c'est le lieu géostratégique de la planète Terre, qui est, comme par hasard, l'océan Pacifique. Mmh. Tout à fait d'actualité au XXIe siècle.
En effet.
Et plus précisément, il situe ce lieu géographique le long du 37e parallèle dans le Pacifique, au large de la Nouvelle-Zélande. Et c'est là que se dénouent les trois histoires. Alors, pour être tout à fait honnête, il n'est pas tout à fait certain que quand il a démarré le premier roman de cette trilogie, c'est-à-dire Les enfants du capitaine Grant, il avait certainement en tête 20 milieux sous les mers, mais peut-être pas l'île mystérieuse, puisqu'il a fallu 7 ans pour l'écrire après.
Oui, il est arrivé plus tard, beaucoup plus tard.
Et en fait, les Verniens, comme on dit, les spécialistes de Jules Verne, pensent que Drakkar, le fameux prince Drakkar, donc Nemo, au départ, ce n'était pas du tout ce personnage-là, qui finalement est donc un prince indien dont la famille a été réprimée férocement par les Anglais et qui a donc des comptes à régler avec l'Empire britannique en particulier.
D'où sa hargne.
Voilà, d'où sa hargne. Mais en fait, il est intéressant de savoir que la fin des enfants du capitaine Grant se situe à l'île Tabor, qui est précisément sur le 37e parallèle dans le Pacifique Sud, que 20 milieux sous les mers, finalement, n'a pas de fin réelle, puisqu'il est censé se terminer dans le Maelstrom,
oui, où on va reparler
les invités, on peut dire, enfin, involontaires du capitaine Nemo peuvent s'échapper du Nautilus. Mais par contre, la fin du Nautilus est précisément dans l'île mystérieuse, tout proche de l'île Tabor. Et donc, par conséquent, ça nous donne les clés pour comprendre le reste des deux autres romans. C'est pour ça que j'ai commencé par cela. Sans doute aussi parce que ce roman met en avant le fameux ingénieur Cyrus Smith qui sert un peu de modèle.
Personnage préféré. Donc, c'est peut-être aussi parce que les aspects scientifiques sont plus... alors, je ne sais pas si on peut dire crédibles, mais en tout cas, valides dans l'île mystérieuse, non ?
Oui, puis alors, il y a aussi le fait que on y répond finalement implicitement à pas mal de questions. Quoi.
Ah oui.
Alors certains ont dit, après avoir lu cette trilogie, que Jules Verne était un écologue avant l'heure.
Ouais.
Ou bien au contraire, c'est un partisan du progrès scientifique et technique, quoi qu'il en coûte, comme dirait un président célèbre. Alors en fait, je pense moi que ce débat est un peu hors de son temps. Il faut réaliser, remettons-nous dans cette atmosphère du 19e siècle, et prenons en particulier les 5 colons de l'île mystérieuse, donc perdus sur une île tout à fait isolée du monde. Ils sont totalement immergés dans la nature, de fait. Quoi. Une nature extraordinaire. Et il faut dire que Jules Verne lui donne un peu une allure de continent à cette île mystérieuse. Quoi. Et ce qu'ils apprennent, c'est à utiliser les ressources naturelles, à la fois biologique et minière, que la nature offre généreusement à l'humanité, mais sans les épuiser. Et donc, ils n'ont pas, comme nous, à revenir sur Terre. Le philosophe Bruno Latour parlerait d'atterrir, dans la mesure où ils n'ont pas eu cette démarche, je dirais, d'épuiser les ressources naturelles. Donc, on prononce pas le mot de développement durable, bien entendu.
Ouais. Mais ils sont économes, voilà. Sobres.
Mais en ce qui me concerne, je crois fortement dans cette démarche-là, au progrès de scientifique et technique, dans tous les sens du terme, y compris dans la perspective d'un développement durable. Et nos sociétés n'ont d'ailleurs pas d'autre choix, à mon avis, que d'aller en ce sens, sous peine de disparaître.
Alors, dans cette, justement, des aspects scientifiques et techniques qui sont tout à fait valides, il y a bah, notamment la géologie. Ils sont bons géologues, hein, ces personnages, c'est important.
Alors, bon géologue, bon physicien, bon chimiste, bon naturaliste. Et la géologie est tout à fait fascinante parce qu'on le voit bien dans 20 milieux sous les mers, au fond de l'océan, y compris, entre guillemets, la découverte des sources hydrothermales, des volcans sous-marins, qui est évoquée clairement et de façon tout à fait bien décrite par Jules Verne.
Alors qu'on ne les avait pas encore découvertes, hein, bien
alors
sûr.
Alors qu'elles n'étaient pas encore découvertes. Et lui était à la recherche de l'Atlantide.
Oui, c'est vrai.
Il situe, sans doute c'est un certain hasard, mais de façon très pertinente en tout cas, le long de la dorsale médio-atlantique, à peu près, où on a trouvé effectivement les vestiges de ce qu'on appelle le site de Ménès-Gouen, qui présente des structures blanches de carbonate, en fait des pots de carbonate, quoi, qui pourraient évoquer les colonnes d'Hercule. Ou
ah oui, donc c'est les sources en fait, hydrothermales ouais. qui ont déposé, enfin c'est des sortes de stalagmites,
oui,
c'est, hein, ça,
sous-marins.
Oui, sous-marins.
Oui, effectivement.
Alors ils savent fabriquer de la nitroglycérine, par exemple.
Ah, ils savent fabriquer de la nitroglycérine. Alors ça, c'est, en fait, ce n'est pas tout à fait difficile à faire, paradoxalement.
Quand on est chimiste, non?
Quand on est chimiste. Encore qu'il faut le manipuler avec précaution.
C'est ça.
Parce que j'imagine que beaucoup des auditeurs ici ont vu le salaire de la peur.
Oui.
Voilà. Et
oui, transport de la nitroglycérine.
La fin tragique de cette histoire. Mais ils s'en servent pour façonner le monde un peu selon leurs souhaits, en particulier dans une falaise de granit où disparaissait donc un lac. Un lac n'avait pas de sortie apparente, ce qui veut dire que la sortie était souterraine. Et pour bénéficier de cette veine, creusée naturellement par la nature, pour en faire une habitation à l'abri des prédateurs et des pirates, eh bien, ils ont tout simplement utilisé la nitroglycérine pour créer un canal de surface. De ce fait, l'eau s'écoulant à la surface, nous avons une chute. Qui dit chute dit énergie hydraulique, voilà. Dit ascenseur. Vous voyez que c'est une conception très moderne de l'utilisation de la nature.
Oui, et ce n'est pas la seule, d'ailleurs, conception, enfin, invention liée aux énergies qu'on appelle aujourd'hui renouvelables. Hein. Il y en a d'autres dans Jules Verne.
Et tout à fait, ça c'est naturel à cette époque-là, sans les moulins à vent.
Ben oui, déjà.
Pour, par chance, un des naufragés dans sa poche, un seul grain de blé,
ah.
Qu'ils arrivent à multiplier. Donc, on arrive au stade où il faut faire de la farine avec le blé, bien sûr. On va donc créer un moulin à vent. Voilà un autre exemple d'une utilisation d'une ressource naturelle. Mais il faut dire qu'à l'âge de Jules Verne, il y avait plein de moulins à vent, y compris en Bretagne.
Mais oui, c'est ça. Il n'y a pas de géothermie dans Jules Verne, non?
Alors, il n'y a pas encore de géothermie, non, ouais. Mais effectivement, on peut y penser. Oui.
Il n'a pas eu cette intuition-là.
Non.
Il me semble qu'il a eu un peu l'intuition des antibiotiques aussi, non?
Alors, en tout cas, de produits, je dirais, d'origine naturelle, qui effectivement peuvent combattre les maladies, effectivement. Oui,
oui. Oui. C'est quoi là qu'ils utilisent? Quel est le produit? C'est pas la pénicilline encore?
Non, c'est la quinine en fait.
Ouais. La quinine, oui.
Ça fait des antibiotiques, mais ce sont des médicaments en l'occurrence, quoi, extraits de végétaux en particulier, et qui vont lui servir à combattre la maladie dans le cas où un des héros est en fâcheuse posture. Oui.
La malaria n'est pas nommée, non?
Non,
ouais,
non,
mais
la malaria n'est pas nommée.
On sait que la quinine, justement, soigne la malaria. Les submersibles, tout ce qui est sous-marin, là-dessus,
ça,
Jules Verne, il est champion.
Absolument fantastique.
Ouais.
Et vous devinez ma fascination, à moi qui ai toujours eu ce rêve, hélas, non réalisé, de pouvoir plonger sous la mer. Donc je n'ai fait que... ça a été possible. Alors, je l'ai fait une fois, mais avec un scaphandre autonome.
C'est pas mal déjà un scaphandre.
Dans la rade de Brest, en tournant un film sur précisément la rade de Brest et la baie de Douarnenez. J'ai eu la chance de le faire avec Christian Pétron, qui est le caméraman du Grand Bleu, dans précisément une forêt sous-marine, une forêt de laminaire. Et donc, je me suis retrouvé, en quelque sorte, à la place des héros du 20 milieux sous les mers, tout à fait en action.
Et mais donc, pas dans Jules Verne, un sous-marin, quoi.
Ouais. Voilà. Et Jules Verne imagine aussi donc un scaphandre autonome. Alors, je reviens sur les sous-marins, parce que c'est vraiment une histoire intéressante. Le concept de sous-marin est en fait assez ancien. Et il y a eu des premières réalisations lors de la guerre de Sécession.
Ah oui, déjà.
Ouais. Déjà. À tel point
donc, 1865 à peu près,
voilà,
enfin, c'est ça.
Oui. Et en fait, les sudistes sont allés couler des navires de la flotte nordiste avec un sous-marin tout à fait rudimentaire. Et donc, le prédécesseur, on peut dire, a été celui qui a proposé à Napoléon un certain Nautilus. Mais il y a eu des essais en rade de Camaret avec succès. Donc, ils ont coulé le Nautilus de l'époque, a réussi à couler un navire en bois. Hein. Mais ça n'a pas du tout convaincu l'état-major de la marine de Napoléon. Et donc, il a fallu attendre effectivement la guerre de Sécession pour aboutir à une première réalisation opérationnelle. Et après, on connaît le succès de ces nouveaux navires. Et en fait, Jules Verne ne fait que reprendre les concepts qui sont déjà dans l'air.
Ah oui, c'est bien avancé en fait à l'époque.
Absolument,
de Jules Verne, tout ce qui est submersible.
Il est allé, semble-t-il, à une expo à Brest où ceci a été évoqué. Il est allé aussi, quand il a fait un voyage aux États-Unis, il a traversé l'Atlantique sur le Great Eastern 2. Ça s'appelle Une ville flottante, hein, ce roman-là. Il a, semble-t-il, rencontré les promoteurs d'un sous-marin américain, l'Alligator, qui a peut-être servi de modèle également au Nautilus qu'il évoque dans 20 milieux sous les mers.
Sur les batteries sodium-ion aussi, il a eu des intuitions.
Alors, tout à fait, oui, parce que nous sommes familiers des batteries lithium-ion. Ouais. Et le lithium peut tout à fait être remplacé, entre guillemets, par du sodium. Le seul problème, bien sûr, à l'époque, était d'extraire le sodium.
Alors que maintenant, ce n'est plus trop un problème, finalement.
Non, ce n'est plus trop un problème et on va certainement pouvoir le faire. Il faut bien sûr que ça soit réellement développable du côté opérationnel, mais on sait le faire déjà à petite échelle.
Oui.
Et ça pourrait remplacer le fameux lithium que nous utilisons de façon courante et dont on dit que la ressource est limitée, en tout cas accaparée actuellement par certaines nations dans le monde.
Alors que le sodium, c'est potentiellement illimité, c'est
potentiellement
ça
illimité.
Bon,
oui.
Bah intéressant. Il évoque aussi la bioluminescence, Jules Verne.
Alors, en réalité, il se trompe
un peu. Il l'appelle pas bioluminescence.
Il l'appelle phosphorescence.
Oui, c'est vrai.
Et donc, j'explique effectivement ce que c'est, du coup, que la bioluminescence. Et je raconte même une histoire qui se passe en rade de Brest, lors d'une campagne où j'opérais la nuit, et nous remontions un filet. Et nous avons vu, en quelque sorte, nous avons remonté un filet de lumière.
Mmh.
Nous avions en effet capté dans les organismes planctoniques des noctiluques qui, soumis à des vibrations, réagissent en émettant un faisceau lumineux. Et nous nous disons, mais nos sous-mariniers à bord de la force stratégique française, la force des sous-mariniers nucléaires, ne doivent pas du tout aimer ce genre de plancton, parce que s'ils arrivent dans un banc de noctiluques, les noctiluques remontent, sa lumière est détectable par satellite.
Oui, c'est ça.
Qui sait. Donc, peut-être que c'est un moyen, effectivement. Mais bon, on n'imaginait pas à l'époque que ça soit possible. Par contre, Jules Verne savait qu'il y avait des étendues très importantes, par exemple dans l'océan Indien, où il fait passer son Nautilus. Là. Et on sait maintenant, détecté par satellite, que ça peut représenter peut-être le quart de la surface de la France.
Donc, c'est des êtres bioluminescents qui tapissent le fond, c'est ça?
Alors non, qui flottent.
Ah, qui flottent, d'accord.
Qui flottent, en l'occurrence.
Ouais. Hein,
et qui sont soumis à des vibrations, réagissent en émettant de la lumière.
Oui, et donc
c'est un processus.
Oui, c'est très fréquent,
très,
en fait.
Très connu.
Très courant. Ouais.
C'est le ver luisant.
Oui, c'est ça. Puis on commence à l'utiliser même dans l'éclairage public, la bioluminescence.
Voilà, absolument. Enfin, bon. Ainsi que la phosphorescence, mais c'est la seule qui a été évoquée par Jules Verne.
Oui. Mm-hmm. Et alors, je vais juste citer une phrase. Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour utilisée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Il a vraiment écrit ça.
Absolument.
Et donc c'est fou, parce qu'en fait, il a prévu tout le battage qu'on est en train de faire sur l'hydrogène, là, c'est ça.
Absolument. Alors, il y a un côté génial, et puis il y a aussi un certain manque de lucidité. Le côté génial, c'est qu'il réalise que le charbon, qui sert essentiellement pour les machines à vapeur à l'époque, hein,
mm-hmm.
parce que le fioul était très peu utilisé,
mm-hmm.
il évoque rapidement dans Michel Strogoff, et c'est plus comme un outil que l'on, enfin, un produit que l'on peut répandre sur le fleuve pour chasser les tartares.
Ah oui, d'accord.
Mais donc, il sait que ça existe, mais c'est pas exploité du tout, en particulier pour les navires où le charbon sert pour les machines à vapeur, dans bien sûr les locomotives, etc. Ouais. Mais il réalise que le charbon est une ressource épuisable.
Ben oui.
Et en fait, il a l'idée que l'électrolyse de l'eau, que l'on sait pratiquer à l'époque, en réalité.
Donc, séparer les H et les C, hein,
voilà,
en gros.
Absolument. Ouais. Donc,
hydrogène,
l'oxygène. Le dioxygène. Quoi. Ouais. Et on va effectivement on va être capable de récupérer le dihydrogène, qui est un parfait combustible, quoi, en l'occurrence. Quoi.
Un peu dangereux, si on veut, mais bon.
Un peu dangereux, si on veut. Encore que, pour mémoire, par exemple, en Allemagne, certains foyers sont totalement autonomes en énergie, à partir d'énergie solaire, et stockent leur énergie sous forme d'hydrogène.
Voilà, ça sert de batterie, de super batterie, en fait, l'hydrogène.
Absolument,
quoi. Oui. Alors, il s'est quand même trompé, parfois, Jules Verne, sur certains aspects scientifiques, enfin, notamment en matière de sciences humaines. Bon, mais c'est normal, il était d'une époque, quoi. Voilà. En matière d'ethnologie, bon...
C'est, voilà, effectivement, ça, c'est même pas très brillant, puisque le concept qu'il a des... Appelons-les les indigènes, dans les régions que les personnages des trois romans donc ont visité, qu'il s'agisse de l'Amérique du Sud ou bien des indigènes d'Australie ou ceux de Nouvelle-Zélande. Bon, en général, ils ont très peu la cote avec Jules Verne. Il est un peu même caricatural, sauf peut-être pour la Nouvelle-Zélande, où il reconnaît le caractère très combatif des aborigènes, ouais, notamment une agressivité très forte vis-à-vis des Anglais. Et ce sont précisément les héros de Jules Verne.
Ça lui plaît.
Voilà. Et donc, en fait, là, il a parfaitement réalisé leur pouvoir créatif, leur cohérence, leur capacité communautaire. Alors, on peut dire que là, c'est un peu visionnaire, parce qu'il n'y aurait pas eu de AK.
Ah oui, c'est vrai.
Il n'y avait pas eu les occupants, les premiers occupants de la Nouvelle-Zélande, effectivement. Ce dont Jules Verne évoque dans son roman... Les enfants du capitaine Grant.
Et le haka qui est une sorte de, comment dire, de chant rituel.
Chant guerrier,
ouais, voilà, utilisé notamment au rugby. Il a commis, alors sur les courants marins, il a eu des intuitions, mais il a aussi commis des erreurs.
Alors, c'est peut-être pas exactement des erreurs, mais ça correspond bien aux connaissances de l'époque. Hein. Par exemple, sur le Gulf Stream, il est plutôt dans l'orbite de Benjamin Franklin, qui décrit le Gulf Stream comme un fleuve tranquille qui fait le tour de l'océan Atlantique. En réalité, le fleuve n'est pas tranquille du tout. C'est un fleuve qui est extrêmement turbulent. Et d'ailleurs, dans la création de l'enfance, donc l'enfance que je crée à Cyrus Smith, je le fais plonger dans le Jules Verne, à bord d'un navire de pêche, précisément. Quoi. Donc ce sont des zones qui sont tourbillonnaires, précisément. Ça fait remonter les eaux. Du coup, les eaux riches viennent en surface, photosynthèse, poisson. Eh bien, précisément, c'est pour ça que les eaux du Gulf Stream sont très riches en poissons, mais parce qu'il y a ces tourbillons. Et donc, Jules Verne ne le sait pas, bien sûr. Et donc, il se trompe un peu aussi dans ce sens que, pour ce qui est de l'océan Atlantique, il ne connaît pas la circulation qui est près de l'Arctique, les plongées d'eau qui, en quelque sorte, tirent le Jules Verne. Tirent le Gulf Stream, pardon.
Le Gulf Stream, oui. Ouais. Et donc, il y a des tourbillons, mais il n'y a pas de maelstrom, vraiment. Enfin, ça s'existe pas vraiment.
Alors, maelstrom est un peu un mythe, bien sûr, qui est pratique pour la littérature.
Alors, ça serait quoi, un grand siphon, c'est ça?
Voilà, on a tous l'idée des trous noirs, maintenant,
ouais,
dans l'espace. Quoi.
Ouais.
C'est exactement ce trou noir, enfin, disons...
Dans l'eau, quelque
dans
part
l'eau,
en mer.
Dans l'océan, qui est censé faire disparaître les navires. Alors, il y a effectivement, dans les zones de courant de marée, même Rade de Bresse, mais des tout petits maelstroms, quoi. Et bien sûr, du côté des Lofoten, où ces courants sont assez violents, j'ai eu la chance d'aller les visiter. Je me suis approché en bateau, mais vous voyez, je suis toujours là.
Oui,
donc
voilà.
Je ne suis pas passé à travers, je ne suis pas tombé dans le trou.
Ils ne sont pas capables d'aspirer les bateaux,
les
petits maelstroms. Il n'a pas prévu les vagues scélérates, Jules Verne. Les vagues scélérates, il ne les mentionne pas.
Non, il ne les mentionne pas.
Ouais. Enfin, on pourrait dire que c'est ça, en fait, les maelstroms. Ce sont les vagues scélérates.
Ah non, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que,
non, ce n'est pas la même chose.
Mais... C'est lié, le maelstrom et les... Et les trous dans la mer sont, entre guillemets, sont liés au courant de marée.
Oui.
Alors que les vagues scélérates, au contraire, c'est ce qui va effectivement bousculer ces navires. Mais dans plusieurs de ces navires, précisément, hein, le capitaine Atterras, etc., les hommes connaissent la force de l'océan et de ces vagues qu'on aurait pu effectivement appeler des Jules Verne scélérates. Oui.
Et ce qu'il n'a pas prévu, enfin, ce, sur quoi il, en tout cas il ne s'attarde pas trop, c'est sur l'impact des énergies fossiles sur le climat, évidemment.
Alors effectivement, oui. Donc, on, il n'imagine pas du tout que le CO2 qui est produit par combustion du charbon, il est côté nocif au niveau du climat. Il faut dire qu'à l'époque, c'était relativement mineur, puisque la population
tout juste.
Du temps de Jules Verne était 8 fois inférieure à la population actuelle. Et puis, il a peut-être raté, mais c'était la fin de sa vie, et il n'avait pas un moral terrible, parce qu'il avait pas mal d'enduits à cause des accidents de son fils. Il n'a pas relevé Arrhenius, qui en 1896, déjà, avait prédit pour l'utilisation des combustibles fossiles la génération de CO2 par l'homme, la perturbation du climat, à tel point que ses prévisions évoquaient un accroissement de température de l'ordre de 5 degrés, qui était pas mal calculé.
Ah oui, en effet, oui.
Nous ne serions peut-être pas loin de cette prédiction, j'espère pas, bien sûr, si nous continuons à utiliser nos hydrocarbures et si l'on fait ce qu'on appelle le business as usual.
Bon, en tout cas, on peut lire Jules Verne, Planète Océan de Paul Tréguer, c'est aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup, à bientôt.